voix nue. Toute cette semaine, Judith Maillet rencontre Charles Anderlin. Ce soir, de l'Anschluss au kibbutz.
Bonsoir Charles Anderlin.
Bonsoir Judith.
Vous résidez depuis maintenant près de 50 ans à Jérusalem. Alors, nous profitons de votre passage en France pour revenir sur l'ensemble de votre carrière. Nous sommes accueillis dans les locaux des éditions Don Quichotte, qui a publié votre 7e essai, dont nous aurons l'occasion de parler au cours de notre rencontre. C'est avant tout une carrière de journaliste que vous avez menée, correspondant, puis chef du bureau de France 2 à Jérusalem, de 1981 à 2015, et que vous menez encore, puisque vous avez réalisé 5 films documentaires, tous diffusés sur France 2, et vous avez bien sûr l'intention de continuer. Grand reporter depuis 1988, vous avez reçu en 2009 la Légion d'honneur. Pour l'heure, je vous propose de remonter dans le temps pour suivre les péripéties de votre famille au début du XXe siècle, une famille d'origine juive autrichienne qui a fui Vienne au moment de l'Anschluss. Une partie de vos aïeux vivait en Turquie dans les années 30, jusqu'à la mort de Mustafa Kemal Atatürk en 1938. L'un de vos oncles, dont vous portez le prénom, Charles, est né à Ankara. Que savez-vous de cette période, Charles Anderlin ?
Bien écoutez, la famille des réfugiés autrichiens à Nancy, tout de suite après l'Anschluss, l'arrivée des nazis à Vienne, cette famille n'a pas beaucoup raconté d'histoire. Les enfants ne savent pas. À un moment donné, j'ai réussi à attraper quelques bribes de la part d'un oncle, un peu de la part de ma mère. Alors, je pense connaître l'histoire, mais pas tout. D'abord, le nom de la famille de ma mère, c'est Brunner, B-R-U-2-N-E-R. J'ai demandé à un de mes oncles qu'est-ce que cela voulait dire et qu'est-ce que c'était ce nom d'origine. Ah non, pas du tout. C'était probablement au XVIIIe siècle des Juifs qui venaient de la ville de Brno, qui ont décidé de germaniser leur nom en arrivant à Vienne et qui ont pris le nom de Brunner. Du côté du grand-père qui était joaillier, qui avait donc un magasin, une joaillerie à Vienne, jusqu'au moment du départ en panique, un professeur de philosophie canadien, un beau jour, il y a une dizaine d'années, m'a contacté à Jérusalem pour me dire qu'on était cousins. Et lui a fait l'arbre généalogique de ce côté-ci de la famille. Il est remonté, je crois, d'abord le père de mon grand-père était violoniste à Vienne, ça au moins je le sais. Son grand-père à lui était par la suite, était également, je crois, soit rabbin, soit enseignant à la communauté juive. Du côté de ma grand-mère maternelle, il venait d'un village à la frontière austro-polonaise qui s'appelait Bilitz. Elle avait 6 sœurs. C'est à peu près tout ce que je sais. Donc la famille prend la fuite de Vienne, les nazis sont là, bourlinguent un peu partout en Europe, finissent par arriver en France. Le grand-père, Benjamin Brunner, est arrêté par les gendarmes, il appartient à un pays ennemi, et il est arrêté au camp de Gurs. Il y avait 3 enfants. L'oncle aîné, je crois, avait 17 ans, grand blond aux yeux bleus, parlant allemand. Lui est parti tout de suite comme volontaire dans l'armée française, il s'est fait passer pour un Alsacien. La deuxième, ma mère, Trudy, et le plus jeune, Charles. Donc, la grand-mère, avec mon oncle, ma mère, se promènent en France, arrivent au camp de Gurs. Une période que l'on m'a racontée presque les larmes aux yeux, avec le comportement des Français. Voici cette dame allemande qui parle allemand avec 2 gosses. « Madame, nicht da, n'allez pas là, Polizei, n'allez pas ici, les gens l'aident, elle arrive. » D'après ce qu'on m'a raconté au camp de Gurs, où elle arrive à faire un scandale aux gendarmes qui, pour se débarrasser d'elle, lui donne son mari, Benjamin Brunner. Là, ma grand-mère a réussi à contacter une de ses sœurs, Zelma, qui avait épousé un grand cuisinier, un grand chef français, qui, vous l'avez dit, était, pendant une partie des années 30, le chef cuisinier de Kemal Atatürk, le président de la Turquie moderne.
Et donc à sa mort, ils sont revenus en France,
non,
à Nancy.
Non, pas du tout, non. C'était la mort est arrivée beaucoup plus tard.
Ils ont à quitté... la mort d'Atatürk.
Je ne pense pas que ce soit lié à la mort d'Atatürk. En tout cas, cet oncle qui s'appelait Fernand Burger, qui était d'origine alsacienne, c'est un détail important, était, d'après ce que lui je l'ai rencontré, lui il m'a raconté. Il était un apprenti cuisinier très bon, et il a été, le début des années 20, le chef cuisinier de l'amiral de la flotte française en Méditerranée qui fait escale en Turquie. Kemal Atatürk est invité par l'amiral et il dit « Si vous, la France veut de bonnes relations avec moi, eh bien je veux ce chef cuisinier ». C'est ainsi que Fernand Burger est devenu le chef cuisinier de Kemal Atatürk avec pour mission de faire manger à l'européenne les ministres de Kemal Atatürk avec des histoires assez fabuleuses que Fernand Burger m'a racontées. Avec son épouse Selma, ils se sont installés, je ne sais pas à quelle date, à Nancy, dans le grand restaurant de la place Stanislas, le restaurant Walter, qui était un restaurant gourmet, très chic. Et j'en reviens à la grand-mère et à ma mère et mon oncle, le plus jeune. Elle arrive à contacter cette tante, sa sœur, et qui leur envoie une voiture avec chauffeur. Ils arrivent à Nancy. Ça y est, Nancy est occupée. La police des étrangers et un juge d'instruction fournit des faux papiers à la famille. La police des étrangers de Nancy a été des justes parmi les nations. Ils ont un arbre au mémorial de la Shoah, Yad Vashem. Ils ont sauvé des dizaines et des dizaines de juifs étrangers qui se trouvaient à Nancy, y compris la famille de ma mère. La famille se trouve dans le restaurant qui est Place Stanislas, devant la Kommandantur, devant la Gestapo.
Et ça devient la cantine attitrée de la Kommandantur.
Je ne sais pas si c'est la cantine. En tout cas, l'oncle Fernand Burger, le chef cuisinier, a, il faut le raconter, a des amis de son enfance en Alsace. C'est un Alsacien. Il a parmi ses amis des gens qui sont devenus SS et qui sont à la Kommandantur, à la Gestapo. Et ils vont effectivement manger au restaurant. Alors, je n'ai pas tous les détails, mais la pensée que ma mère était... petite blonde aux yeux bleus parlant l'allemand avec l'accent autrichien recevant la Kommandantur. L'oncle Fernand, plus tard, a donné une grande interview à l'Est républicain racontant que Himmler et Goebbels venaient manger dans le restaurant. À la fin de la guerre, il y a eu des problèmes. Ça a été le seul restaurant de Nancy qui n'a pas fourni de garçons au travail obligatoire en Allemagne. C'est là que ma mère a rencontré mon père, officier démobilisé de l'armée française. Selon une version, il était dans la résistance. En tout cas, le restaurant était lié d'une manière ou d'une autre à la résistance à Nancy, d'après ce qu'on m'a raconté, mais c'est peut-être faux. Et fin de la guerre, mes parents se sont mariés, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, j'avais 7 ans.
Et vous avez vécu à ce moment-là en région parisienne, Charles Anderlin ?
Jusqu'à l'âge de 6-7 ans, la famille a ouvert.
Parce que vous êtes né en 1945, donc juste à la fin de la guerre.
Oui, la famille a ouvert, enfin ma mère et mon père ont ouvert un hôtel-restaurant à la frontière suisse, à Saint-Louis, devant Bâle. Là, moi, je suis tombé malade, primo-infection, tuberculose. Je suis parti pour un an et demi, 2 ans en Suisse. Je n'ai pas eu de nouvelles. De temps en temps, on m'écrivait. En Suisse, j'ai appris le suisse-allemand et comme langue étrangère, l'allemand. Et en suivant de loin un peu le français, quand je suis retourné à Nancy cette fois et pas à Saint-Louis, mes parents avaient divorcé, j'ai perdu le contact avec mon père.
Et donc, quand vous revenez vivre à Nancy avec votre mère, Charles Anderlin, vous êtes chez vos grands-parents, avec votre sœur.
Tout à fait. Ma sœur, Caroline, ma mère, nous vivions dans une pièce. Le grand-père avait son atelier où il fabriquait des jouets, des joyaux, des chaînes en or. La grand-mère faisait la cuisine. Un oncle a ouvert un restaurant rue des Dominicains. Et puis, voilà, la famille, maintenant, commence à s'intégrer à la France.
D'accord. Et donc votre grand-mère, justement, il paraît qu'elle avait un caractère assez trempé et que c'est elle qui s'occupait de vendre les bijoux de sa confection, de la confection de votre grand-père, cher Landerlin.
Oui, maintenant, très vite, mon plus jeune oncle a ouvert une bijouterie et la famille contribuait effectivement à la vente, à la fabrication, à aider l'oncle qui tenait cette bijouterie. Mais de temps en temps, on voyait des gens venir acheter des bijoux à l'étage. Et pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi ces policiers étaient reçus avec tant de chaleur. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris. C'était probablement des fils ou des gens qui avaient contribué à protéger la famille pendant l'occupation allemande.
D'accord, tout ça a été fait dans le plus grand secret.
Non, c'est pas secret, simplement c'est une génération, on raconte pas.
Oui.
On garde les choses pour soi. Bien plus tard, j'ai découvert que j'avais encore une cousine éloignée en Israël, dont je n'avais jamais entendu parler. C'est la génération de la guerre qui ne veut pas raconter ce qui est arrivé. On vit dans le présent et dans le futur et on essaye de se développer, on essaye de construire, de faire.
Alors, en parlant de construction, Charles Landerlin, parlons de votre scolarité. Vous êtes d'abord élève au lycée Poincaré de Nancy, un lycée assez réputé, où vous fréquentez avec d'autres camarades du baby-boom une classe surchargée. Et un jour, vous n'obtenez pas la note que vous pensiez mériter en dissertation.
Ça, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé quand j'étais en seconde. Ma mère, ma sœur, avons quitté Nancy pour participer à la création d'une autre bijouterie avec la famille à Metz. Là, j'arrive en seconde dans une annexe du lycée, du grand lycée Faber, et effectivement, je me retrouve au fond de la classe avec des camarades qui s'appelaient Weisbrot, Cohen, et tous les quatre ou cinq, quoi qu'on fasse, nous avions toujours en français des notes qui étaient entre 0 et 5. Et je trouvais qu'on avait beau essayer d'écrire du Chateaubriand, mais ça ne servait à rien. Et puis un beau matin, le professeur, dont je dirais pas le nom, me donne ma copie avec des annotations que j'ai trouvées inacceptables, et j'ai annoté ces annotations. Espèce d'imbécile, c'est toi qui comprends rien, etc., etc. Un gamin devant moi prend ma copie et puis éclate de rire en voyant les annotations que j'ai collées sur les remarques du professeur. Et je passe en conseil de discipline et je suis sur le point d'être viré. Et puis je dis, écoutez, je trouve que le professeur est antisémite. Et j'explique. Eh bien écoutez, j'ai été suspendu 3 jours, transféré dans une autre classe où curieusement mes notes sont passées de 0 à 5, ils sont passés à 15, 16. Finalement, j'étais pas si mauvais que ça en français. L'antisémitisme, pour moi, a toujours été un peu omniprésent. Que ce soit à Nancy, au lycée Poincaré. La famille n'était pas religieuse, mais on appartenait à la communauté. Il y avait une place à la synagogue pour mon grand-père où j'allais avec lui les jours de grandes fêtes juives. Kippour, le nouvel an juif, Rosh Hashanah.
C'était important pour vous d'appartenir à cette communauté, Charles Landerlin ?
Vous savez, à cet âge-là, oui, on ne se pose pas la question si c'est important, on appartient tout court. Et il y avait régulièrement des petits incidents devant la synagogue rue du Grand Rabbin à Gennauer. Des voyous du quartier venaient lancer des pierres, des cailloux en direction des fidèles ou en direction de la synagogue, et on se retrouvait avec d'autres gamins juifs devant la synagogue à renvoyer les pierres. Je suppose que cela devait arriver aujourd'hui, il y aurait un bataillon de CRS devant la synagogue. À Metz, de temps en temps, aussi, dans la cour ou autre, ben, le mot juif sonnait. À Metz, moins, parce que il y avait le concordat, et donc des cours de religion au lycée. Et un rabbin venait, et on le voyait discuter avec ses collègues, le pasteur et le curé, et ensuite on avait des cours de religion, des cours de religion juive. Il n'a d'ailleurs pas été très sympa parce qu'il m'a mis comme annotation sur mon bulletin scolaire « Trop d'absence empêche de juger l'élève
». Malgré tout, ça ne vous a pas empêché d'avoir le bac, Charles Landerlin. Et à ce moment-là, vous vous inscrivez en faculté de médecine à Nancy. C'est votre choix personnel, la médecine ?
Écoutez, oui ou non, je suis le plus âgé de cette génération de cousins issus de cette famille qui est passée au travers de la guerre, qui a réussi, qui s'intègre. Et naturellement, Charles, écoute, fais médecine ou fais du droit. Bon, bah écoutez, allez, je fais médecine, pourquoi pas. J'ai été un très mauvais élève, j'ai un très mauvais étudiant. J'ai redoublé la première année, et puis finalement j'ai redoublé, j'étais sur le point de redoubler, enfin j'ai redoublé également la deuxième année, et est arrivé mai 68.
Oui, alors en 68, il semble que vous ayez d'autres préoccupations.
En 68, la plupart des étudiants de France, soit étaient chez eux en train de travailler, d'étudier, soit qu'ils étaient dans la rue ou en train de participer à des comités de grève. J'ai participé à un comité de grève. À l'époque, je faisais également un peu de travail volontaire au service de physique médicale de la fac de Nancy chez un professeur qui s'appelait Burg et qui est devenu grand patron de l'INSERM. J'ai d'ailleurs trouvé deux, trois petites techniques. Et au moment, lorsqu'on a eu le grand retour des mandarins en octobre, il me manquait 7 centièmes de points pour passer, et le prof Burg m'a dit, écoutez, si vous me jurez de ne plus jamais vous occuper de syndicalisme ou autre, eh bien, je vous fais passer chez ma femme qui est prof à Strasbourg. Bah, écoutez, j'ai dit non, je me suis dit que j'étais peut-être pas fait pour ça, et puis je n'avais pas envie de passer à Strasbourg, et c'est là que j'ai décidé, bah, tant que j'y suis, je tourne une page et je pars en Israël.
Mais avant de décider de partir en Israël, vous avez le choix entre plusieurs destinations. Donc pourquoi avoir choisi de partir en Israël ?
Bah écoutez, quand je suis arrivé effectivement à l'agence juive à Paris et je leur ai dit que je voulais aller en Israël, on m'a demandé pourquoi Israël et pas Cuba. Alors j'ai demandé s'il y avait des kibbutzim à Cuba. Non. Israël, bah écoutez, je suis juif, j'ai participé occasionnellement à des mouvements de jeunesse juive, à Shomer HaTzair qui est très à gauche, j'ai fait un peu chez les éclaireurs israélites de France, et puis c'était dans ma tête, et puis on imaginait, j'avais pas mis les pieds en Israël, on imaginait un pays à faire, en construction, apparemment plutôt sympathique, on parlait d'un socialisme israélien, ça donnait envie.
Oui, donc vous avez envie de réaliser un rêve. En fait, vous souhaitez, mais est-ce que vous souhaitez déjà à ce moment-là devenir citoyen israélien ?
Écoutez, non. D'abord, j'arrive, je passe 6 mois au kibbutz Dafna, qui est à la frontière libanaise. Détail, c'était pratiquement la deuxième nuit, c'était les premiers tirs de roquettes venus du Liban sur le nord d'Israël, et ça a été déjà une première expérience. On a fait ensuite, après 6 mois, pendant ces 6 mois, je travaillais à l'usine de sandales en caoutchouc du kibbutz, et j'ai fait, je crois, des milliers de sandales. Et après, ça a été 9 mois, un centre d'apprentissage de l'hébreu. Il y avait un problème, la bourse qui m'avait été promise par le ministère de l'intégration n'arrivait jamais, jamais complètement, jamais à temps, et puis à un moment donné, il a fallu effectivement trouver autre chose. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire reprendre des études de psychologie et de biologie à l'université hébraïque, et à un moment donné, il a fallu travailler.
Mais avant ça, l'expérience du kibbutz, qu'en avez-vous retenu, Charles Anderlin ? C'est-à-dire, est-ce que ça a correspondu à vos idéaux socialistes ?
Je ne sais pas si j'avais vraiment un idéal vraiment socialiste. En tout cas, la vie au kibbutz s'est avérée une vie de l'équivalent d'un shtetl où les gens se regardent les uns les autres, ne savent pas très bien comment vivre ensemble, et puis il y avait des jalousies. C'était une société humaine un peu compliquée. Alors je suppose qu'il y avait des kibbutz où tout cela se passait d'une manière formidable. Là où j'étais, d'abord, on utilisait les nouveaux venus comme moi, comme main d'œuvre extrêmement bon marché. On a ramassé des patates, je vous l'ai dit, fabriquer des sandales en caoutchouc. Ça ne me plaisait pas. Mm-hmm. Ça n'a pas pris le kibbutz. J'ai épousé par la suite une immigrante du Chili.
Que vous aviez rencontrée au kibbutz, Charles
Non, que j'ai rencontrée dans un centre d'apprentissage d'hébreu juste après le kibbutz. Là, ça y est, il faut vraiment gagner de l'argent. Et puis j'ai cherché un endroit où je pourrais effectivement travailler. Et j'ai été employé très vite par la radio israélienne en français.
Alors, avant de revenir sur la question de vos débuts dans le métier, j'aimerais quand même revenir sur votre arrivée en Israël, parce que c'est une période particulière pour la société israélienne, qui se remet de la guerre de 1967, avec une fascination pour Tsahal, qui a conquis des territoires pendant la guerre des Six Jours. Est-ce que vous, quand vous arrivez dans ce pays, Charles Anderlin, vous avez le sentiment qu'une atmosphère particulière règne?
D'abord, vous savez, quand on arrive comme ça, on ne parle pas la langue. On essaie d'abord de comprendre et puis on essaie de voir exactement quelle est sa place dans cette société. Je vous l'ai dit, le premier soir, le deuxième ou le troisième soir de mon arrivée au kibbutz, on entend des explosions et des sirènes. Et qu'est-ce que c'est? Puis je vois les gens qui courent autour de nous dans tous les sens. Et puis en nous criant un mot en hébreu, miklat. Alors on va, tel à la chambre, j'avais déjà un dictionnaire hébreu-français, on regarde. Ah, miklat, ça veut dire abri, oh là là, il faut courir aux abris. Donc on s'est mis aux abris. Le lendemain, j'ai assisté aux obsèques des civils israéliens de la ville voisine qui avaient été tués par ce bombardement. Alors déjà, on comprend, la guerre n'est pas finie. Il y a eu la guerre de Six Jours l'année précédente, mais le problème est toujours là. Alors on a l'impression, bon, Israël est menacé, on ne comprend pas encore. Je suis monté sur le Golan où commence déjà à s'installer un kibbutz, mais sous une forme plutôt militaire. Et je me dis, les choses vont être compliquées. On n'avance pas vers une paix. D'autant plus que les ennemis sont là.
Vous avez quel âge à cette époque, Charles Anderlin?
Écoutez, je suis né en... qui ont fait le calcul, je suis né en 45, on est en 68, voilà, on est... j'ai 23, 24 ans.
Et ça ne vous inquiète pas, outre mesure, vous ne vous dites pas peut-être qu'il va falloir rentrer en France?
Non.
Non. Et votre famille, non. Votre famille restée en France ne s'inquiète pas non plus?
Écoutez, Charles. Non, on m'écrivait très peu. C'est le fait que j'ai abandonné ou que j'ai été viré des études de médecine et que je n'ai pas décidé, par exemple, de rester au magasin pour devenir vendeur de bijoux, était considéré comme un grand échec par la famille. Et puis, je me rappelle qu'un membre de la famille m'a dit « Attends, tu vas habiter dans une tente dans le désert là-bas, c'est pas un avenir pour toi ». C'est une époque où, dans la vision que les communautés juives avaient d'Israël, c'était pas du tout le pays de haute technologie tel qu'on l'imagine aujourd'hui. D'ailleurs, un des chocs que j'ai eu en descendant de l'avion sur l'aéroport de Tel Aviv, c'était de découvrir qu'il y avait une table avec le responsable de l'enregistrement des papiers. C'était tout simplement sur le tarmac avec une table. Je dis, oh là là, maintenant il y a eu un incendie dans le terminal et par hasard, c'était sur le tarmac. Donc on a vraiment l'impression qu'on est dans un pays
en voie de développement.
Il y a du désert et en voie de développement.
Et vous aviez l'intention de couper les ponts avec votre famille restée en France, Charles Anderlin?
Écoutez, oui, à un moment donné, où il faut se réaliser soi-même, quoi.
Oui, et donc, et à ce moment-là, vous n'aviez pas forcément l'idée que vous alliez rester durablement en Israël?
Alors, j'étais en début 73. J'avais finalement pris la nationalité israélienne et mon beau-père au Chili, prof de médecine, m'avait écrit « Tu apprends l'espagnol et tu viens et tu finis médecine chez moi ». Oui, pourquoi pas?
Pourquoi oui, c'était,
pas on envisageait vraiment en septembre 73 d'y aller. Et puis là, on a eu... Pinochet, au lieu que je rejoigne les parents à Santiago, ce sont eux qui sont venus se réfugier à Jérusalem, c'était des proches d'Allende. Et début octobre, Les sirènes, la guerre de 73.
Alors, vous, à ce moment-là, donc, vous avez épousé Irénée, c'est ça ? Et vous avez déjà des enfants ?
On a deux petites filles.
D'accord. Donc, vous vous apprêtiez à partir à quatre pour un pays que vous ne connaissiez pas plus, le Chili.
Oui.
Ouais. Et donc, à ce moment-là, c'est ce que nous allons voir par la suite, tout a basculé. Mais peut-être qu'on peut déjà parler de cette, en tant qu'homme, comment vous affrontez en fait cette nouvelle guerre qui arrive en Israël en 73.
D'abord, c'est la surprise totale. Je suis à la radio israélienne, je travaille en français, je donne un coup de main aux émissions en hébreu. Et le 8 ou le 9 octobre, la guerre a commencé le 5, je vois le directeur des nouvelles en hébreu qui hurle de joie en agitant une dépêche d'une agence de presse israélienne, les chars de Tsahal, de l'armée israélienne, sont dans les faubourgs de Damas. C'était faux. On apprend quelques jours plus tard que ce jour-là, son fils se faisait tuer sur le Golan. On m'a envoyé en reportage dans le nord, à Kiryat Shmona, la ville israélienne de Haute-Galilée. À la poste, les gens me disent, à la radio, vous diffusez n'importe quoi. C'est des mensonges. C'est pas du tout, on n'est pas du tout en train de repousser les Syriens. D'ailleurs, regarde, on me fait sortir de la poste et on me montre le Golan. On voit des avions israéliens bombarder le versant côté Haute-Galilée du Golan. Donc, ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait être sous une propagande folle que l'on finit par comprendre et croire soi-même.
Merci beaucoup, Charles Anderlin. Est-ce que vous êtes d'accord pour reparler de tout cela avec nous demain soir ?
Eh bien oui, rendez-vous demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Judith Maier avec Charles Anderlin. À voix nue, attaché de production Claire Poinsignon, prise de son Cédric Audra, réalisation Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.